Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour Turbine, enregistrée depuis le studio du Media Lab du WIP et diffusée sur Radio Pulse et la Station B. Et aujourd'hui, il s'agit de notre dernière émission de la saison. Dis donc, le temps passe vite, vous pourrez nous retrouver en septembre. Mais en attendant, quoi de beau pour cette émission? Souvenez-vous, lors du dernier gros live qui avait lieu le 10 juin, nous avions dédié la dernière partie de l'émission au compagnonnage. Nous avions accueilli la compagnie Caraval Project et leur projet de podcast Qui tient la guinde, et Alban et Pierre pour leur projet de podcast Chaise pliante. D'autres ont participé à ce projet, comme Dorothée Briand, qui est journaliste et qui est en train de créer un super podcast dont nous allons parler dans cette émission. Mais j'ai encore bien envie de garder un petit peu de mystère avant de vous dévoiler du coup ce fameux thème de podcast. Et pour ça, on pourrait commencer par un petit tour de bonjour de l'équipe qui est constituée aujourd'hui de Alain. Comment vas-tu et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Bonjour Annalou, je vais bien et je vais vous parler de mon agenda culturel pour les vacances et pour les oreilles.
Eh bah super, on a hâte de connaître ce petit agenda pour s'éclater cet été. Et on a aussi l'Afken qui est loin. Mais qui va s'approcher du micro. Ça va l'Afken?
Ça va et toi Analou?
Bah oui super, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Aujourd'hui je vais te parler de Georges.
Ok, pas de soucis, on garde le mystère. Et puis quoi d'autre? David n'étant pas présent aujourd'hui, il nous a gentiment envoyé sa chronique, donc on pourra l'entendre. Et on dit aussi bonjour à Thomas qui est à la régie aujourd'hui. Comment qu'il va le Thomas?
Il va très bien.
Eh ben super, il y a Alixia aussi qui nous honore de sa
présence. Bonjour, bonjour.
Tu vas parler un petit peu plus tard dans l'émission?
Bah en fait, la porte elle était ouverte, je suis rentrée et je me suis assise à la table.
T'as fait comme chez toi.
Voilà, exactement.
C'est bien, t'as bien fait. C'est très cool. Et donc du coup, revenons au vif du sujet avec notre invitée Dorothée Briand. Alors bonjour Dorothée.
Bonjour Annalou.
Comment vas-tu?
Eh ben très très bien, ravie d'être là.
Eh ben super, ravie que tu sois là aussi. Alors Dorothée, tu es journaliste et tu as été journaliste radio d'ailleurs au passage.
Eh ouais, pas ici mais oui, et en Touraine.
En Touraine, on connaît. Et donc aujourd'hui, tu viens nous parler de ton projet de podcast. Ça y est, on va lever le mystère. En quoi consiste-t-il?
Alors oui, on va parler d'un projet de podcast qui est vraiment à ses tout débuts. Donc on va surtout parler de la thématique. Je prépare un podcast donc en compagnonnage avec le WIP sur le thème des agents de sécurité. Il s'agit en particulier de leur donner la parole pour parler de leur métier et mieux connaître ce métier qui est à la fois extrêmement visible puisqu'il est de plus en plus répandu, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'agents de sécurité partout. On a de plus en plus d'interactions avec les agents de sécurité en même temps qui est très mal connu. En tout cas, les gens ont rarement l'occasion de s'exprimer. Les agents de sécurité ont rarement l'occasion de s'exprimer.
Carrément, c'est carrément vrai et ça annonce du bon, enfin, ça a l'air d'être un sujet hyper intéressant. Et donc du coup, comment t'en es venue à travailler sur ce projet-là?
Eh ben, j'ai rencontré des agents de sécurité qui sont des amis et c'est en les entendant parler que j'ai... quelque part, je me suis un peu familiarisée avec leur quotidien, la façon dont ils vivaient leur métier. C'était vraiment aux antipodes des a priori que j'avais. Et ça, c'est toujours un bon début, je trouve, quand on a des a priori sur quelque chose et qu'en fait, on se prend une claque par des gens qui nous donnent une petite leçon en nous disant bah non, il y a des gens qui vivent des choses et ces choses-là, elles sont intéressantes. C'est pas que des gens qui ont l'air de s'ennuyer devant des stands toute la journée. Il y a d'autres choses et il y a beaucoup de choses à dire en fait.
Okay. Ouais, ça c'est intéressant justement, on reviendra peut-être plus tard sur la question de l'ennui et tout dans cette émission. Et où est-ce que tu en es du coup justement dans ce projet?
Alors j'en suis au tout début, j'ai fait pas mal de lectures, il n'y a pas beaucoup de choses sur les agents de sécurité, on parlera tout à l'heure de films, il y a quelques films, il y en a un qui est plus connu que les autres mais qui donne un point de vue particulier sur le métier. Il y a un sociologue qui a fait une thèse qui s'appelle Sébastien Sébastien Beauvais, qui a aussi écrit quelques articles et donc est sociologue. Et ma foi, c'est un peu tout, il n'y a pas grand-chose. Alors qu'en fait, c'est quand même un secteur qui pèse 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. C'est pas rien. Alors, ce n'est pas que la sécurité humaine, c'est toute la sécurité. Mais il y a quand même, on parle d'environ 150 000, 180 000 agents de sécurité en France. C'est vrai qu'on les voit beaucoup en Île-de-France. C'est là où sont concentrés la plupart des agents de sécurité. Et donc, j'ai réalisé déjà une première interview que voilà, je voulais partager avec vous, qui n'est pas forcément le début de mon podcast, mais qui était pour moi un début de travail pour commencer voilà, à avoir un peu de son et à rencontrer les gens au fur et à mesure pour constituer mon podcast, dont le but est vraiment de donner la parole à des agents de sécurité, des hommes et des femmes, même s'il y a beaucoup, beaucoup plus d'hommes, et d'essayer de à travers chaque épisode, d'appréhender une réalité différente. Parce qu'en fait, c'est un métier, là, on a parlé assez facilement des agents de sécurité qu'on voit dans les centres commerciaux, mais il y a aussi ceux qui gardent les usines la nuit, il y a ceux qui sont maîtres chiens, enfin, il y a tout un tas de métiers très différents. Ça recouvre aussi des métiers différents. Et pour moi, c'est intéressant d'aller explorer un peu tout ça, quoi.
Ok, bah c'est super cool et on est content que tu puisses un petit peu nous teaser ce podcast qu'on a vraiment super hâte d'écouter. Et donc du coup, tu es venue avec des petits extraits, des choses dont tu veux nous parler de ce premier entretien.
Donc je suis venue avec un premier entretien. On va faire connaissance donc avec Sandro, qui est agent de sécurité pour le coup dans un centre commercial des Yvelines. Depuis 8 ans, avant il faisait de la sécurité, mais comme ça, enfin sans forcément une carte professionnelle. Et alors il est brésilien, tendez bien l'oreille, il a un accent à couper au couteau. Il a une première carrière professionnelle en fait, lui, dans la danse, et il est sportif. Et voilà, vous allez découvrir un peu comment il en est arrivé là, comment il est arrivé à ce métier d'agent de sécurité. En fait, c'est par hasard, quoi.
J'ai commencé pour le hasard, j'ai connu quelqu'un, il m'a parlé de la sécurité, et du coup j'ai m'intéressé, j'ai passé un diplôme et j'ai commencé à travailler.
Pourquoi tu as décidé de choisir ce métier d'agent de sécurité?
Parce que j'ai trouvé intéressant aussi. Et ça me permettait de continuer les cours de capoeira, les cours de sport, pour rapport les horaires que tu ne travailles pas tous les jours. Normalement, on travaille 3 jours par semaine, comme c'est de vacances, de 12 heures.
Est-ce que tu aurais aimé faire autre chose comme travail après ta carrière de sportif?
J'ai essayé de valider le diplôme de sport que j'ai. C'était très compliqué pour moi ici en France, c'est par rapport à la langue, l'écriture, tout ça. Et donc, c'était pas reconnu. C'est pour ça aussi que j'ai rentré dans la sécurité.
Voilà. Donc, arrivé par hasard, je trouve que ça raconte pas mal de choses parce que il y a une partie des agents de sécurité, pas tous, mais qui sont aussi effectivement là par défaut, qui sont souvent d'origine étrangère, voire étrangers, primo-arrivants, et qui ne choisissent pas ce métier, tombent dans le métier parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait, parce qu'il y a une forte discrimination déjà dans le reste du monde du travail vis-à-vis de travailleurs maghrébins ou d'Afrique subsaharienne. Et puis, cette discrimination française sur la langue qui est extraordinaire, quoi. On ne peut pas passer le moindre diplôme sans avoir écrit un mémoire. Et même quand on veut être sportif, et ça, c'est... Voilà pourquoi des gens atterrissent dans ces métiers-là qui sont, et c'est un peu par défaut en fait. Et donc pour introduire le deuxième extrait, moi ce qui me perturbe un peu avec ce métier-là en m'y penchant, en discutant avec les uns et les autres, c'est que c'est aussi un métier mal défini. En fait, agent de sécurité, c'est quand même un métier qui se situe à la frontière d'une sorte de fonction sociale, de paix sociale, d'assurer la paix sociale, mais aussi de fonction commerciale, d'assurer surtout les biens, en fait, notamment dans les centres commerciaux. Il faut la principale fonction de ceux qui gardent un bien, c'est de faire en sorte qu'il soit pas volé et du coup on attend beaucoup d'eux et en fait ils ont peu de moyens, enfin c'est ça qu'il va raconter. C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, et il a finalement peu de moyens, notamment face à des menaces, puisqu'ils sont de fait en première ligne, ils sont là pour surveiller, et donc ils sont un peu les visages des surveillants, des bâtiments, etc. Et en fait, il explique qu'ils ont très peu de moyens, et ça provoque aussi pas mal de frustration.
C'est un peu difficile comme travail, parce que à partir du moment que quelqu'un t'agresse, tu ne peux pas se défendre, tu ne peux rien faire, parce que si tu se défends, tu fais quelque chose, c'est toi qui vas payer après. Comme ça m'est arrivé une fois, de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a porté plainte contre moi. Et du coup, j'étais obligé d'aller au commissariat, d'expliquer, monter les caméras, comment ça s'est passé les choses. Et ça, c'est un peu frustrant parce que quand tu es dans ton travail, tu fais ton boulot, et les gens te font un truc comme ça, tu ne peux pas répondre. Donc, c'est un peu difficile.
Voilà, il y a une frustration qui est que j'ai lue aussi dans la thèse de Sébastien Beauvais qu'il a vraiment relevé de ce problème en fait de fond en fait de ce métier qui est déjà mal défini. Donc ce qu'ils ont le droit de faire c'est des prises, sauf que concrètement faut à mon avis au moins 15 ans de karaté pour savoir faire des prises sans faire mal à quelqu'un concrètement et sachant que la personne elle peut elle peut partir violemment, elle peut être armée, elle peut ne pas vouloir rester. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu compliqué pour eux. Et ils se sentent pas respectés, en fait, moins respectés que la police. Et il y a beaucoup de frustration. C'est peut-être ce qui fait que la moyenne d'ancienneté dans ces métiers-là, c'est 6 ans et demi. C'est quand même très, très peu. Ça veut dire qu'il y a énormément de turnover en réalité.
Ouais, c'est intéressant justement ce parallèle avec la police qui, elle, pour le coup, en plus, on sait là où il y a de la dérive vraiment dans les violences policières. Et c'est vrai qu'on n'entend pas ça trop chez les vigiles, chez les personnes qui travaillent dans la sécurité.
Alors, c'est arrivé des cas où des agents de sécurité
forcément,
avaient abusé
c'est sûr,
aussi.
C'est sûr, ouais.
La frontière est hyper difficile et pour eux, et c'est mal défini pour eux aussi en réalité. Ouais. Eux, ils ont l'impression d'être dans leur bon droit parce qu'on leur a demandé de faire telle chose et que quand quelqu'un, du coup, ne respecte pas leur travail, ils ont l'impression que c'est une agression. Mais en réalité, vis-à-vis du droit, ils ont très peu de droits au niveau des réactions physiques. Quoi. Donc, ça crée finalement ce qui est paradoxal. C'est que leur fonction est un peu de protéger entre guillemets la population ou les consommateurs, on va dire, et puis finalement ça dérape sur des situations où ils sont plus vus comme des gens dangereux parce que justement on sait pas trop jusqu'où ils peuvent aller, ce qu'ils peuvent faire, et
c'est une posture qui est pas évidente du tout, quoi.
Voilà, et de l'intérieur, on sent bien que c'est pas évident pour eux non plus,
ouais.
Et mais bon, malgré tout, il y a, je sais pas si vous l'avez senti, moi c'est ça qui m'a étonnée. Bon, dans les films qu'on voit en général, il y a un grand mépris pour ce métier, les gens le font vraiment avec dégoût, et au contraire il y a quand même notamment chez Sandro un certain attachement, un attachement à ce qui est devenu son métier par la force des choses. Voilà, un dernier extrait pour écouter ses souhaits pour l'évolution de son métier. Qu'est-ce que lui, ce dont il aurait besoin, qu'est-ce qu'il exprime là-dessus sur son métier?
Moi, je trouve que c'est un métier très intéressant, très sérieux, mais il n'est pas valorisé au niveau des valeurs, des pays, c'est mal valorisé, et au niveau aussi du respect, il n'y a pas de respect. Je pense que tout le monde qui travaille dans la sécurité, ça devait être plus respecté, parce que c'est un travail très sérieux et très difficile. Ça veut dire, s'il y a un accident, un acte terrorisme qui rentre dans un centre commercial, les premières personnes qui vont être attirées, ce sont les agents de sécurité. Et après, ils vont passer à l'acte. Mais les premières, c'est les agents de sécurité. C'est pour ça qu'il doit avoir plus de respect.
Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur, d'ailleurs, dans le centre commercial, qu'il y ait quelqu'un, soit un fou, effectivement, comme ça, ou un acte de terrorisme qui arrive? Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit? Et est-ce que des fois, t'as peur?
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que ça a déjà arrivé, d'ailleurs. Ça a déjà arrivé. Et du coup, ça fait peur. Ce qui s'est arrivé, c'était à Paris 13. Un individu qui est rentré avec un couteau. Et la première personne qu'ils avaient mis le couteau, c'était l'agent de sécurité. Donc, c'est facilement, ça peut déraper. C'est pour ça que nous, on n'est jamais tout seul. Il y a toujours 2 ou 3 agents à côté. Et les camarades qui sont en permanence sur nous. Non seulement pour nous surveiller, si nous faisons notre travail bien, mais aussi pour nous protéger de quelque chose comme ça qui peut arriver.
Voilà, alors bon, c'est quelqu'un qui adhère aussi au système de surveillance hein, qui est mis en place voilà, dans les supermarchés. Il faut savoir que c'est un métier qui est payé 1 300 € net. Que les vacations donc sont souvent très très longues, de 12 heures. Vous devez voir ça aussi au WIP, sur des festivals, des fois c'est extrêmement long, des temps de présence extrêmement longs. Il y a très très peu de valorisation, on peut avoir comme ça des primes un peu parce qu'on est SIAP 2, parce qu'on a passé des petits compléments de formation, mais c'est extrêmement mal payé. Et il parlait des attentats, c'est vrai que c'est un métier qui a explosé après les attentats de 2015-2016 du coup qui a fleuri entre guillemets, ou en tout cas la sécurité privée a fleuri aussi sur nos peurs sociales et eux aussi ils sont à la fois là pour nous protéger, eux aussi ils ont peur, enfin du coup ça crée une espèce de malaise où on sent que c'est vraiment sur la notion de peur que fleurit toute la sécurité privée et c'est pas étonnant, c'est ce que dit un peu Sébastien Beauvais, c'est pas étonnant que tous ces discours sur l'insécurité qui fleurissent depuis Sarkozy de manière extrêmement forte s'associe à une croissance parallèle extrêmement forte de toute la sécurité privée en France notamment, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Et du coup, ce que je propose justement pour aller plus loin, parce que bah, tu nous as fait comprendre que c'était un métier qui était assez mal défini. On aurait aimé avoir justement quelqu'un du métier ce soir, mais malheureusement, ils sont assez mobilisés. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut s'écouter un extrait du film La loi du marché, enfin la bande-annonce du film La loi du marché de Stéphane Brisé, avec l'acteur Vincent Lindon qui joue justement un vigile dans un supermarché, et justement pouvoir en discuter de problématiques que tu as déjà abordées, et aussi peut-être pouvoir prendre un peu de recul sur le film. Je vous propose qu'on s'écoute la bande-annonce.
Allez.
J'en ai chié autant que toi. Moi aussi j'avais un boulot, moi aussi je l'ai perdu, et moi aussi j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500 € par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? C'est dans 9 mois, c'est là.
Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise?
Ah oui, je pense, oui.
Bah, vous pensez, vous êtes sûr?
Est-ce que vous avez envisagé la vente, peut-être, de l'appartement?
Oui, mais c'est non.
C'est non? Et bah, pour quelle raison?
Ça serait comme si tout ce qu'on avait fait, c'était... Ça avait servi à rien.
Donc au niveau des hôtesses, tu zoomes bien pour voir si elles scannent tous les articles, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de départs en pré-retraite, et qu'il essaye de virer du personnel.
Ouais, chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, je pense que pour ma santé mentale, je préfère tirer un trait, passer à autre chose. Est-ce que ça fait de moi un lâche?
Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois, madame Ensemble, vous avez été filmé. J'en ai dit. Vous confirmez?
Oui, monsieur, vous confirmez.
Thierry, vous confirmez?
Donc du coup, pour récapituler, le film, ça raconte l'histoire de Thierry qui, après avoir perdu son travail, se retrouve dans une situation financière très délicate pour lui et sa famille et qui se retourne vers le métier de vigile dans un supermarché. Et c'est assez intéressant parce que d'un côté, dans les critiques, les gens disaient que c'était un film social assez vu et revu, mais il a quand même le mérite d'être un des seuls films qui aborde le sujet. Enfin, moi, j'ai pas trop vu d'autres films aborder ce sujet-là.
Bah, qui est autant marché. Oui, je l'ai vu il y a très longtemps. Je me rappelle plus trop, mais oui, je l'ai vu il y a longtemps. Ouais. Carrément à sa sortie. C'est un film d'avant les attentats, donc à une vision du métier qui est plutôt sur le post-crise 2008. Donc, ça parle au fond aussi beaucoup de toute cette crise du chômage qu'il y a eu et de tous ces gens qui ont dégringolé socialement et qui se retrouvent effectivement avec des dilemmes moraux, parce que c'est ça l'idée du film, en fait, c'est qu'il a un gros dilemme moral et que ça le mine, et que c'est entre gagner ta vie et renier ta morale, en fait.
Ouais, c'est ça.
Le film parle beaucoup de ça. Après, c'est un film qui est assez documentaire dans mon souvenir et qui montre beaucoup, justement, qui parle beaucoup de l'ennui. On parlait de l'ennui tout à l'heure. Le film est beaucoup basé là-dessus. Donc, c'est des longs plans séquences Oui, enfin, il fait rien entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est là, quoi, à surveiller. Et puis on voit les gens qui sont comme lui, en fait, qui sont de petite classe moyenne, voire pauvre. Et on a cette sensation que toute cette société participe malgré elle et surtout contre elle, en fait, à une société de la surveillance, de l'appauvrissement. Enfin, moi, j'ai pris le film vraiment comme ça. Vincent Lindon, il est hyper juste. Il est en plus très, très bien. Il a eu la Palme d'Or, d'ailleurs, d'interprétation à Cannes cette année-là.
Et tous les acteurs aussi, qui ne sont pas des acteurs professionnels du tout, ils sont tous très justes.
Ouais, ils sont tous très, très justes. Mais du coup, j'ai l'impression, moi qui travaille du coup sur le métier, que là, on n'a plus le même regard sur ce métier-là parce qu'on n'est plus dans cette époque-là.
Ouais, et puis, j'allais te demander justement, c'est quand même une image assez négative du métier. Et comme on entendait dans l'extrait tout à l'heure, du coup, Sandro parlait plutôt bien de son métier. Parce que là, c'est vraiment quel métier horrible un peu. Hein. C'est un peu ça qu'on essaie de vraiment, nous dire.
C'est tout à fait, t'as raison. C'est même un peu caricatural des fois.
C'est ce que je me disais aussi.
Je pense que les gens, peut-être avec le temps, le métier s'est un peu étoffé. Il faut savoir qu'il y a une espèce de syndicat qui s'est créé en 2012, donc c'est tout nouveau, qui structure les formations, qui structure les cartes professionnelles. Ça s'est beaucoup structuré, je pense, et du coup, il y a une forme de, pas de tri, mais peut-être d'organisation du métier qui fait qu'il est peut-être moins repoussoir. Les gens sont peut-être un peu mieux formés, ils viennent plus à l'arrache. Il faut une carte professionnelle maintenant quand même, donc soit un BEP, CAP-BEP, soit un CQP. Il faut passer une formation et j'ai l'impression qu'elle n'est pas toujours financée, donc il faut aussi se la payer du coup. Donc il faut quelque part être un peu motivé pour faire ce métier. Donc je pense que c'est aussi peut-être plus des gens qui adhèrent avec société de surveillance en fait, qui du coup s'y sentent peut-être moins mal à l'aise que Vincent Lindon dans le film.
Oui, c'est exactement ce que j'allais te demander parce qu'on a parlé aussi pas mal de l'aspect, de la sécurité, mais il y a aussi quand même un gros volet surveillance. Donc comme tu disais, tu le précises à chaque fois, c'est des personnes qui adhèrent aussi à cette façon de voir les choses. Et dans le film, c'est aussi vachement montré et du coup d'un regard assez négatif. Par exemple, quand le personnage il flique ses collègues, clairement, parce qu'il faut écrémer, il faut virer du personnel, quoi. Et toi, t'en penses quoi de ça par rapport aux interviews, aux entretiens que t'as fait, et puis même à tes amis qui t'en parlaient justement?
Alors dans le film, je trouve que c'est un chouïa caricatural. Ouais. Cela dit, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est vrai, et il le dit d'ailleurs dans l'extrait lui-même. Il est filmé, quand il fait les caméras, comme il dit, il a 48 caméras. Donc dans un supermarché, il y a 48 caméras et qui peuvent bouger en plus. Donc autant dire que tout le monde est filmé tout le temps, quoi. Donc ça c'est leur quotidien en fait, donc ils sont habitués à être filmés et à partir de là donc ils savent qu'ils sont filmés. Ils filment aussi les caissières à la fois pour voir s'il n'y a pas de problème mais aussi pour voir si elles font bien leur travail. C'est comme ça,
il faut adhérer. Mais ça doit pas être facile même pour entretenir un bon état d'esprit et un environnement sain avec ses collègues de travail. Je ne sais pas si tu as eu des retours par rapport à ça. Mais...
Non, en fait, c'est comme si c'était accepté. C'est-à-dire que tout le monde le sait, en fait.
D'accord.
Et tout le monde l'accepte, de toute façon, il n'y a pas le choix. Enfin, voilà. C'est organisé comme ça.
D'accord, ok.
Voilà, okay. C'est peut-être l'évolution. Depuis 2015, on s'est habitué un peu plus encore à être filmé et à être surveillé. Moi, ce que je trouve intéressant dans le film aussi, et qui, j'ai l'impression, existe encore aujourd'hui, c'est aussi cette ambivalence entre la notion de protection et, en réalité, la grande précarité dans laquelle la plupart des agents de sécurité sont.
C'est le sujet du film aussi, oui.
Oui, aussi. Tout à fait. Peut-être que là, en supermarché, en centre commercial, peut-être un peu moins. Il y a un groupe, apparemment, c'est mieux organisé là où est Sandro. Mais il y a aussi des agents qui ne voient jamais leur hiérarchie, leurs collègues, parce qu'ils sont, par exemple, surveillants d'une entreprise la nuit. Et donc, ils sont invisibilisés, ils sont seuls, ils ont peu accès à leurs droits, ils ont peu accès à de la communication. Et en plus, donc, d'être mal payés et d'être dévalorisés. Et du coup, c'est très paradoxal. On demande à des gens, entre guillemets, d'être forts ou en tout cas d'assurer une protection. Et eux-mêmes sont dans des états de précarité sociale qui sont énormes, quoi, en fait. Ouais. Voilà,
une position compliquée. En tout cas, merci.
Ouais, une position compliquée.
Merci de d'avoir répondu à notre question, d'avoir pu discuter en plus sur cette thématique qui est super intéressante. C'est pour ça qu'on a du coup très très hâte de pouvoir écouter le podcast.
Bientôt, pour le début.
Est-ce que tu as une petite date, enfin pas une date, mais une période où tu penses qu'on pourrait l'écouter ?
Une envie en tout cas, ouais, autour de la rentrée ou voilà, j'aimerais bien.
Bah super, on a vraiment hâte. Et on n'hésitera pas dans tous les cas à prévenir nos auditeurs lorsqu'il y aura la sortie de ce fameux podcast. Et avant de passer à la chronique de notre cher David, on vous propose une petite pause musicale proposée par Dorothée évidemment, et on va s'écouter « Je ne peux pas travailler » de Henri Salvador.
Aïe, 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 quelle bonne femme, je t'ai épousé là, enfin. Attention, la voilà qui arrive, la voilà qui arrive, hop là. Tu m'engueules sans arrêter parce qu'on n'a pas d'argent et qu'on ne peut rien acheter pour nous et tes parents. Mais je peux pas travailler debout parce que ça me fait mal aux genoux. Je peux pas travailler assis, ça me fait mal au coccyx. Ah, je suis très mal foutu, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh, ça va pas du tout. Aujourd'hui, le directeur des galeries Lafleur m'a offert une situation de garçon d'ascenseur. Mais je peux pas descendre et monter, j'ai le foie qui va se décrocher. Je peux pas travailler en boîte, j'ai les poumons comme de l'ouate. Ouf, j'étouffe mon vieux, j'étouffe. Oui, 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 oui. La voisine m'a proposé de laver ses carreaux et elle m'a apporté un énorme escabeau. Mais je peux pas travailler en l'air, j'ai le vertige, je peux me foutre par terre. Je pourrais travailler couché, mais personne veut m'embaucher. Ils ont bien raison, mon vieux. Je suis trop mal foutu. Enfin, je continue. Onésime qui tient l'orchestre au dancing du carrefour m'a demandé d'entrer chez lui pour jouer du tambour. Mais je peux pas travailler dans le bruit, ça me donne des tas de maladies. Je peux pas travailler des bras, j'ai l'épaule qui ne tourne pas. Aïe, 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 aïe. Je pourrais même pas faire une mayonnaise, alors tu penses jouer du tambour. Enfin, je continue. Monsieur Jean, le commerçant qui a des plantations, me dit Jules, viens donc chez nous, faut cueillir le coton. Mais je peux pas travailler penché, ma colonne veut pas se plier. Je peux pas travailler courbé, j'ai les doigts de pied recourbés. À propos, on peut pas dire que tu as trouvé chaussure à ton pied, toi. Enfin, je continue. La Julie, ma belle copine qui bosse à l'extérieur, me suggère de m'occuper de son petit intérieur. Chouette, je vais pouvoir travailler couché. J'ai fini par me faire embaucher, mais je vois pas pourquoi t'es fâché. Tes parents pourront bouffer. Alors toi, alors qu'est-ce que c'est que cette bonne femme là, mon vieux? Ah, oh, une vraie calamité. Enfin, j'étais là bien tranquille, célibataire.
Et vous écoutez toujours Bonjour Turbine, et on vient de s'écouter le titre « Je ne peux pas travailler » de Henri Salvador. Et on va tout de suite passer à la chronique de David, qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, mais qui nous envoie tout de même sa chronique « L'histoire de l'histoire », dans laquelle il va évoquer la sécurité dans les magasins, mais aussi et surtout la maladresse et ses conséquences.
On meurt gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes.
L'histoire de l'histoire, avec David, entrez dans l'histoire dans Bonjour Turbine.
Stéphane se tenait la mâchoire, la douleur était là. Il s'assit sur le bord du lit. Quelques heures de sommeil n'avaient pas suffi à apaiser l'onde de choc. Un choc stupide et invraisemblable. La catastrophe avait eu lieu dans le rayon sport de glisse du décathlon de Créteil-Soleil. Mais revoyons la scène au ralenti. Pour mieux se rendre compte du désastre, Stéphane percute bêtement avec son pied gauche une planche à roulettes. Il parvient miraculeusement à rétablir l'équilibre sur la dite planche et glisse sur une distance de 63,20 m environ. Mais la situation se corse car il se retrouve face à l'escalator. À ce moment précis, il effectue une figure de style olympique inconnue du jury. Un triple soleil, mais dont la réception mal maîtrisée se termine par un vol plané lamentable et des plus douloureux sur la bordure de la piscine de Bâle. Pas de bol. Aux urgences, les jolies infirmières se mordaient les lèvres pour ne pas pouffer de rire quand Stéphane expliqua les circonstances de sa mésaventure. Il en ressortit rafistolé avec un casque à élastique qui maintenait sa mâchoire pantelante. La première journée s'annonçait originale. Tout d'abord, il devait se nourrir à la paille pendant une période de 15 jours et survivre d'un brouet clair en guise de soupe. Mais le bon Stéphane n'était pas du genre à se laisser abattre, car il n'en était pas à sa première gamelle. Et à force de chuter, il était passé maître dans l'art du rebond. Comme il était caviste de métier, ce qui explique en partie ses accidents, il songeait déjà à la prochaine dégustation avec ses clients. Un Montbazillac grand cru, un morceau ou un chablis ferait l'affaire. Naturellement, lui siroterait le précieux nectar à la paille, une façon de les apprécier encore davantage, d'en extraire le vocabulaire approprié, l'odeur du terroir, le fumet délicieux, ces touches de cassis, de miel, d'amandes douces qui font toute la saveur d'un grand cru et cette note subtile, esquise, indéfinissable, la note sensible, surtout quand on demande le prix de la bouteille. Il avait 20 minutes de marche avant de rejoindre son travail d'employé caviste aux rues du calvaire Saint-Pierre. Le froid et les élastiques de son casque le faisaient beaucoup souffrir. Aussi décida-t-il de passer par la pharmacie où travaillait Léa, sa petite amie. Léa était une petite blondinette excentrique avec des couettes qui devaient lui servir à se brancher sur une prise multiple afin de recharger les batteries. Elle débordait donc d'énergie, en était même fatigante pour son entourage. Stéphane entra, ôta son écharpe avec précaution. À la vue de l'horrible blessure, Léa faillit s'évanouir. Et la scène qui suivit dépasse en tout point l'imagination. En effet, à la vue de son bien-aimé, meurtri, la pauvrette, n'écoutant que son bon cœur, fit un bond par-dessus le comptoir de la pharmacie. Un bond de gymnaste de l'ancienne Union soviétique quand le KGB leur piquait les fesses. Léa court vers Stéphane, telle une hyène se jetant sur sa proie. Pendant ce temps, dans la pharmacie, c'est la stupeur et les réactions sont partagées devant cette prestation inattendue. On hésite entre l'effarement et les applaudissements. Mais Léa est en transe, son homme est blessé, elle panique, survoltée. « Oh là 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 !» Ce sont les seules paroles qu'elle parvient à proférer pendant au moins 5 minutes, chronomètre en main. Stéphane essaye bien de la raisonner, mais la furie s'était déjà emparée du téléphone avec la ferme intention de prévenir la maman de Stéphane, ce qui est, vous en conviendrez, la chose la plus insensée à faire à cet instant de la journée. « Madame Skia, au secours, c'est votre fils, venez vite, à la pharmacie !» Stéphane voyait déjà le tableau, les deux femmes de sa vie se lamentant devant tous les gens de la petite pharmacie. Quelle honte! Il se demandait comment s'extirper. Il fit un rapide point de la situation. Elle n'était pas désespérée, mais il fallait agir vite. Il bondit hors du magasin, profitant de l'attroupement des badauds qui assistaient à ce pitoyable spectacle offert par sa petite Léa adorée. Il parvint à s'échapper par une porte dérobée, comme il y en a dans toutes les bonnes pharmacies qui alimentent les sportifs dopés. Ce jour-là, il ne put se rendre à la cave avant. Il se doutait bien que Léa et sa mère y seraient ou qu'elle aurait envoyé les gars de la brigade mondaine. Après un tour de quartier, Stéphane, enveloppé dans son châle qui lui servait de masque, il s'engouffra pour la première fois de sa vie dans un cinéma porno. Là, il put jouir d'une certaine tranquillité et penser à Léa, tandis que sur l'écran défilaient les pénis de Rocco Siffredi et ses frères qui passaient derrière la haie. Moralité, quand la situation l'exige, il faut savoir échapper au romantisme.
Et on remercie David pour sa chronique. Et pour continuer cette émission, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de la microfolie, Lafken.
Est-ce que je vous ai déjà parlé de Georges ? Georges, c'est avant tout un homme d'une cinquantaine d'années, passionné de foot et amateur de soirées de dégustation vin et fromage. Georges a des passe-temps très particuliers. Il aime observer les jeunes recouvrir le mur du voisin de tag artistique. Georges aime regarder les étoiles de son balcon quand il revient de son travail. Georges aime surtout mijoter de bons petits plats à base de quinoa, de tomates et autres légumes bio. Si je vous parle de Georges aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Georges est agent de sécurité en hôpital psy, et il aime parfois écouter Bonjour Turbine durant ses gardes. Du coup, Georges était trop absorbé à écouter le gros live de juin dernier, et j'ai pu me tirer de l'hôpital psychiatrique. Prends soin de ta face, Georges.
Dali était-il fou ou sans esprit? Picasso voyait-il le monde en cul?
Ok.
La poule vient de l'œuf, mais l'œuf vient de la poule. La folie, c'est de répéter la même action encore et encore en pensant que ça va changer le résultat.
Encore, encore.
Comment l'homme s'est dit qu'il pouvait boire ce qui sortait de la vache? Qui est le premier à s'être demandé si c'était normal d'avoir des voix dans sa tête? Si j'achète du pain avec un tableau, ce serait une croûte? C'est ça, la folie.
Et oui, auditeur, je sais toujours comment jongler avec une thématique comme un jongleur avec des tronçonneuses. L'été arrive et avec elle la riche programmation que propose la microfolie. Ma chronique te détaillera plus en détail ce que l'on propose, car tu pourrais être subjugué et tenté de venir de nous voir pour nos animations. On ouvre le bal avec ce qu'on appelle dans le milieu très fermé un micro-festival. On fait venir un graffeur qui va peindre notre façade intérieure et qui va, grâce à la grande magie du numérique, y mettre de la réalité augmentée. Quoi, auditeur? Tu es intrigué? Alors au lieu d'aller te détendre sur une plage de sable fin, viens donc observer ce spectacle qui se déroulera du 13 au 16 juillet. Le 22 juillet, on fait carrément venir un musée chez nous. Ouais, on est des grands, ça y est, on est enfin dans la cour. À 14h30, on fait venir un médiateur du musée de Normandie pour qu'il vous parle, vous présente, vous charme. Et puisqu'on est sympa, on vous proposera même une visite exceptionnelle du musée en sa compagnie. Promis, ma folie n'est pas contagieuse. Le 29 juillet. Le 30, on vous emmène en Grèce antique. On parlera de vin, de couleurs, d'épopées fantastiques au cours d'un Discovery Tour que notre partenaire Ubisoft nous a offert. Un moyen de voyager avec nous, tu ne diras pas non, auditeur. Mais je jacasse, et voici que mon esprit part sur la lune. Car ce sera le mois astronomie à la microfolie durant août. On voyagera dans l'espace grâce à l'exposition que Emeline nous a concoctée. De quoi se coucher moins bête pour que chaque personne qui vienne nous voir puisse découvrir cette exposition. En plus, il y a même une version pour les plus petits avec un livre et jeu. Que demande le peuple? Le premier en studio qui me parle, le premier qui en parle en studio, il sera brûlé vif. Le 10 août, à 14h30, il y aura même une conférence sur les galaxies qui sera ludique. Le 12 août, ce sera notre journée et soirée des étoiles. J'aurais pu prendre la musique de Star Wars, oui c'est vrai, mais c'est très long. Le Paléospace de Villers-sur-Mer, qui est notre partenaire privilégié, viendra s'amuser à créer des astrolabes à 16h. Et on fera notre nuit des étoiles à 20h30. On pourra observer les étoiles, et si tu es attentif, auditeur, tu sauras me voir briller parmi les astres. Quel poète je suis. Le 17, 18 et 19 août, on fera de la robotique, une façon de découvrir la programmation de manière ludique et impactante. Et si on est super fort, on va même faire des Transformers pour conquérir la planète. Mais j'en doute. Et notre toute dernière animation de l'été sera un atelier sur la Voie lactée, où les enfants pourront créer un tableau pop-up mettant en scène notre mascotte dans l'espace le samedi 20 août à 14h30. Allez, bonnes vacances à toute l'équipe, moi j'ai une folie à entretenir. Salut!
Merci Lafken pour ta nouvelle folie créative et cette émission avant, cette dernière émission de la saison, avant d'aller glandouiller justement tout l'été, avant de se retrouver en septembre. Alors pour l'occasion, je pense qu'on peut s'écouter un petit son feel good qu'on a envie de s'écouter, les fenêtres ouvertes sur la route de la mer. Et c'est le titre Can't It Hit du King Jamiroquai, pardon l'accent. But then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, until I took a trip to the other side of town. Yeah. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, 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 down. Et nous sommes de retour sur Bonjour Turbine. On vient de s'écouter le titre Caned Heat, j'ai toujours du mal, de Jamiroquai, qui sentait bon la fiesta et les vacances. Mais je crois que c'est au tour d'Alain de nous présenter son agenda culturel.
C'est qui ?
C'est quoi ?
C'est où ?
C'est quand ?
L'agenda culturel d'Alain, le conteur flâneur.
Pour cette dernière rubrique de l'année, avant de se retrouver en septembre, quelques propositions très éclectiques pour juillet et août. D'abord, du 13 au 16 juillet, à Dives-sur-Mer, le festival Récidive, théâtre de marionnettes et formes animées. Des spectacles avec billetterie, avec des compagnies venues de France et d'étrangers, des spectacles en accès libre, des ateliers, des DJ sets, le Big Show, l'émission de web télé du Sablier chaque jour, une soirée fenêtre sur cour le 14 et la soirée de clôture le 16, une exposition carte blanche à Simone Descoupes, des interviews, des jeux. Retrouvez le programme sur www.lesablier.org. Ensuite, je passe à la musique classique avec le festival Musique en Côte de Nacre, 15e rencontre européenne de la paix du 18 au 28 juillet, avec un pays à l'honneur, la Corée du Sud, et le chœur Capella, dirigé par Oh Ki-young Kim. Le violoniste prodige Tatsuki Narita, accompagné au piano par Mami Hagiwara, un extraterrestre type. L'occasion d'écouter le son d'un Stradivarius, le Quatuor Ludwig, l'orchestre Glasper Lenspiel Sinfonienta, l'ensemble de trompettes Tromba Camerata, celui-là je vous le conseille, c'est beaucoup de musique de film et une mise en scène qui est géniale.
En tout cas, j'adore la prononciation de tout ce que tu fais. Ah bah, tu t'es entraîné un petit
continue.
Peu.
Le trio Élysée. Retrouvez le programme sur www.musiqueencotedenac.com et toutes les informations pour les lieux et dates et réservations. Tous les concerts sont à 17 euros. À Courseul-sur-Mer, Douvres-la-Délivrante, Carpiquet, Béni, Bernières, Luc-sur-Mer, Langrune, Saint-Aubin-sur-Mer, Auty, du 7 au 15 août, la 17e semaine acadienne. Des concerts, Isabelle Boulet, la famille Leblanc, Claude Cormier, José Lapierre, Marc Gendron, Emmanon Seguin, Pierre Billon, Sucy Arvesen et Terry Bradford, entre autres. Et un événement, le concert exceptionnel autour de la guitare de Jean-Félix Lalanne, proposé et conçu spécialement pour le festival par ce grand guitariste qu'est Jean-Félix Lalanne. Et il réunira à cette occasion de très grands musiciens et la chanteuse Angoune. Michael Jones sera là, Tom Leb, Robin Ford, guitariste de Miles Davis, Jean-Félix Lalanne, Gail Buswell et d'autres. Seront également au programme des cérémonies commémoratives en hommage aux soldats acadiens, des projections de documentaires, dont un concert hommage à Jerry Boudreau de la Nouvelle-Écosse, des animations, des ateliers, un défilé de véhicules anciens, une randonnée pédestre historique sur les traces des Acadiens, des journées thématiques sur la vie des Acadiens du temps du fort de Louisbourg, la vie au moment du débarquement, cap à l'ouest, une exposition sur la jetée de Courseul, sans oublier le 15 août, alors ça je vous le conseille, jour de fête nationale des Acadiens, le Grand Tintamarre qui verra près de 3000 personnes défiler sur la digue de Courseul pour faire du bruit en toute liberté. Et vous pouvez venir avec vos casseroles, tout ce que vous voulez qui peut faire le plus de bruit possible, www.semaineacadienne.net. Ensuite, je vais passer, en tournant la page, voilà, à des expositions photos. En ce moment, on a la chance d'avoir à Caen deux expositions photos qui sont assez extraordinaires. La première, c'est celle qui est au Mémorial de Caen, qui est une exposition temporaire jusqu'au 31 décembre, qui s'appelle « La lumière de l'ombre ». Ce sont des photographies des camps nazis faites entre 1988 et 2000 par Michael Kena. Alors je cite « Il se trouve que j'ai photographié ces camps pendant une douzaine d'années. Il fallait que je les photographie pour garder cette mémoire vivante, pour conserver une trace. Mon œuvre porte sur la mémoire. » Donc, de 1988 à 2000, le photographe anglais entreprend de nombreux voyages pour photographier les sites des camps nazis. Il photographie les portes et enceintes, les baraques, les bâtiments de travail, les espaces des exécutions. Il construit un projet sobre et intime constitué de 7000 photographies prises dans plus de 20 camps de concentration et centres de mise à mort. À l'heure où les derniers survivants disparaissent, Michael Kena tente de lutter contre un impossible oubli et de transmettre ce qui a été l'immensité de l'univers concentrationnaire et l'ampleur du génocide des Juifs d'Europe. C'est au Mémorial de Caen, c'est 5 euros. J'y suis allé, c'est bouleversant, c'est en noir et blanc, c'est vraiment à pas rater. Mais comme vous serez, si vous y allez, si vous serez au Mémorial, n'oubliez pas que vous pouvez voir les photos de l'exposition du fonds Patrick Chauvel, au-dessus de la boutique, c'est gratuit. Photographe de guerre, il y a des photos pareil qui sont extraordinaires et très bouleversantes. Et puis, n'oubliez pas, je vous l'avais déjà dit, mais l'exposition des photos de Steve McCurry, dont je vous ai parlé la dernière fois, à l'hôtel de ville de Caen, salle du Scriptorium, jusqu'au 15 septembre. C'est 5 euros, gratuit pour les canets, sur présentation de justificatif de domicile. J'y suis allé. Il y a des photos extraordinaires, des couleurs magnifiques. Et il y a une ou deux photos, dont une en particulier, mais je ne vous dirai pas, parce que je veux vous laisser juger par vous-même. Mais moi, qui m'a tiré les larmes aux yeux. Mais c'est pas les beaux yeux verts de la fiche de l'exposition, mais je vous laisse découvrir. Enfin, à l'occasion du 50e anniversaire de la sortie de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust de David Bowie, une version remasterisée avec les techniques les plus récentes vient d'être éditée. Elle est à retrouver en magasin, c'est mieux, et ailleurs pour écouter ou découvrir cet album culte. Un petit extrait ? Enfin, un stage de réalisation artistique est proposé par l'association Amavada à la Bibi, ancienne bibliothèque municipale face à l'hôtel de ville de Caen. J'ai avec moi Valérie Dokowski qui va nous présenter mieux que moi ce stage. Donc bonjour Valérie,
bonjour.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce stage ?
Oui, alors c'est un stage qu'on fait depuis 25 ans en fait, stage d'éducation populaire pluridisciplinaire. Et bien c'est 15 jours, hein, un peu plus de 15 jours même. Il y a d'habitude une trentaine, entre 30 et 40 stagiaires. Et donc là, on fait du théâtre et de la musique essentiellement cette année. Et l'idée, c'est d'explorer un thème différent chaque année, soit d'aborder un auteur ou une thématique. On est passé par Octave Mirbeau ou les plantes. Ou l'année dernière, on a fait une sorte de spectacle déambulatoire zombiesque. Voilà, cette année, l'idée, c'était d'essayer de retrouver un petit peu d'optimisme quand même. Alors, et donc de parler d'avenir, mais de parler d'avenir pas de la même manière que celle que on a l'habitude d'entendre à la radio ou à la télé ou même finalement dans nos propres têtes, hein, parce qu'on a quand même du mal à être optimiste avec tout ce qui se passe en ce moment.
Alors si j'ai bien lu, Sauver l'homme, une science-fiction utopique.
Ouais.
Dis-nous en plus.
oui, bien sûr. Oui. L'idée c'est de parler d'avenir. On raconte des histoires. Donc on fait de la fiction. On veut pas. On parle du réel, mais par le biais du récit. Et donc c'est pour ça la science-fiction. La science-fiction. Pourquoi on précise utopique ? C'est parce que en ce moment la science-fiction elle est plutôt dystopique. C'est toujours des histoires de fin du monde en ce moment qu'on nous raconte. Ça n'a pas été toujours le cas dans l'histoire de la science-fiction. Donc y a un premier volet en fait qui va s'inspirer beaucoup de trois romans. Alors il y a un roman des années 40, mais qui a été réécrit dans les années 70. On écrivait encore des bouquins de science-fiction avec une perspective positive peut-être pour l'humain, pour l'être humain. Donc y a un volet qui est presque réaliste en fait, hein, qui parle de comment sauver l'humanité, que faire en fait. Est-ce que quelque chose est possible ? Est-ce qu'une nation par exemple peut faire sécession ? Donc là c'est l'Écotopia, où en fait trois États américains font sécession pour préserver la nature. Se mettre dans une dynamique complètement différente du reste de la planète. Et ce territoire, on ne peut pas spécialement y entrer. Là, il y a, dans le bouquin, un journaliste y va et décrit un peu tout ce qui se passe, tout ce qui se produit de merveilleux. Et parfois un peu moins merveilleux, mais enfin, en tout cas, ça donne des recettes qu'on met en place en ce moment. Et on voit qu'à l'époque, déjà, on savait qu'il fallait faire ça. Qu'il fallait faire un peu gaffe à ce qu'on faisait en termes d'énergie, de consommation, d'élevage, d'agriculture, etc. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième roman dont on s'inspire, Elle s'appelle Les Dépossédés, et là, on est plus sur une critique politique. Là, c'est une partie de la population qui part sur le satellite. Alors, c'est pas la Lune, puisque c'est pas non plus la Terre, mais enfin, bon, on fait l'analogie très rapidement. Imaginons que des humains, là, de ce système capitaliste qui nous amène un peu au désastre, partent en fait sur la Lune pour réinventer la société humaine et trouver une équité, un équilibre plus stable et dans une certaine forme d'austérité par contre. Donc voilà, ça c'est le deuxième récit. Et le troisième, on est dans un délire un peu façon Planète des Singes, c'est des chiens. Demain les chiens qui racontent en fait l'histoire de cette époque sur la Terre où les hommes existaient, étaient encore présents. Là les humains sont partis dans une forme de paradis un peu lié en fait à un progrès. Ça parle de surhomme, ça parle de l'homme augmenté. Enfin, l'homme a tout augmenté sur la planète. Les plantes, les animaux et eux-mêmes, ils ont tellement augmenté les hommes qu'ils sont partis dans une espèce d'astre un peu idyllique, quoi. Et les chiens sont restés sur Terre et racontent l'histoire des hommes. Donc ça, c'est les trois bouquins dont on s'inspire. Mais je crois que ce qui est la nouveauté du stage de cette année, c'est que on va créer du débat, en fait, tous les jours. On va poser des questions sur quel avenir on peut imaginer, plus positivement, on va dire, et de manière à ce que les jeunes stagiaires, enfin plus ou moins jeunes, hein, c'est un stage qui est ouvert à partir de 16 ans, jusqu'à la mort. Voilà.
Et justement, Alicia qui est autour de la table.
Pas prête de mourir quand même.
Si, je prends ma retraite l'an prochain. Je t'ai pas dit.
Ah oui, on a Alicia, effectivement. Tu as fait combien de stages, toi, Alicia?
Là, ça va être mon quatrième stage.
Ouais.
Je fais le stage, donc c'est tous les étés depuis, comme l'a dit, depuis 25 ans. Et voilà, c'est un très beau stage que je trouve vraiment bien parce que Amavada fait ça, c'est de mélanger les amateurs et les pros. Donc on a vraiment un mélange hyper, en fait on vient tous de milieux différents, on a tous des âges différents, on a tous des qualités différentes et on se retrouve, on fait groupe tous ensemble, on est encadré bien sûr par les professionnels, par des comédiens qui sont trop trop cool. Et donc du coup on a vraiment un groupe hyper au final homogène quoi, qui fonctionne bien, il y a personne qui est laissé de côté, on fait groupe, on s'écoute, on partage, il y a de très belles amitiés qui se sont formées à Mavada. C'est pas un stage qui est sur 2 semaines et après au revoir, reprenez vos vies. C'est vraiment pour moi un stage qui dure toute la vie, c'est-à-dire que moi les gens que j'ai rencontrés sur ce stage, donc sur ces 3 ans, voilà, c'est des gens que je recroise, avec qui je sors, je fais des soirées machin, et on a vraiment un truc de ce stage qui est super cool parce que en fait par ces thèmes, donc là cette année c'est sauver l'homme, enfin on a fait un truc plus médiéval, c'était à la demeurée, on a fait un truc plus politique sur le mensonge, sur la vérité, et par ces thèmes en fait on arrive à s'ouvrir, et en fait souvent les amateurs dégagent un truc de fou, et au final au spectacle quand on va voir le public c'est vraiment c'est des amateurs, c'est trop cool, vous fonctionnez super bien machin, mais c'est parce qu'en fait on est super, en 2 semaines on est toujours tous ensemble, voilà, c'est on s'entraide en fait, on est encadré par des pros, mais on se donne des retours entre nous, on donne nos ressources, même on mélange la musique aussi.
Oui.
Donc il y a des musiciens qui, en fait c'est stage théâtre et musique, bon, avant il y avait aussi art plastique, mais voilà, on zone un peu tous ensemble.
Dans le lieu de création d'Amavada, en fait, ce qui permet d'avoir accès aussi aux ateliers. Donc comme le disait Alixia, cette année c'est Raphaël Martin qui encadre le groupe musique. Et ce qu'on veut amener là cette année, Alixia, tu le sais peut-être, mais c'est que les stagiaires créent aussi, amènent leur désir et leur désir d'expression en tout cas, et inventent peut-être aussi des formes. C'est-à-dire qu'en plus de ce que nous on amène, il y aura aussi toute une réflexion sur quoi dire, comment traduire nos espoirs aussi sur un plateau, et en constituant des petites équipes de spectacles vivants, puisque effectivement on mélange musiciens et comédiens. On va peut-être aussi imprimer des choses, puisqu'on a un atelier art plastique qui nous permet de dégager des accessoires ou de faire des affiches. Et donc ça, si l'occasion se présente, on le fera aussi. Tout n'est pas encore ficelé, et c'est, je pense, l'intérêt aussi du stage de cette année, c'est qu'il y aura une expression finalement, je l'espère, riche, mais aussi plus libre que l'année précédente. Voilà, donc peut-être...
Concrètement, pour s'inscrire... Ouais.
Alors pour s'inscrire, il faut s'inscrire à la Bibi. Il y a des feuilles d'inscription... On ne s'inscrit pas forcément par Internet, c'est bien de venir. En plus, ça permet de voir le site aussi et de comprendre un petit peu par les énergies qui circulent là-bas, comment ça peut se passer. C'est ouvert du mardi au samedi de 14 à 18. Et le stage a lieu du 11 au 27 juillet. On fera le spectacle 23-24 juillet. Si vous voulez voir le spectacle, qui est ouvert, hein, il faut nous envoyer un mail. Qu'on ne fera pas de publicité. Très souvent, c'est un spectacle déambulatoire in situ. On ne sait jamais très bien où on va jouer au début du stage. Et en cours de stage, on finit par trouver un lieu hyper adapté et qui convient au spectacle. On ne joue pas dans une boîte noire. Ça, c'est important de le dire, parce que pour un stage d'été, c'est assez euphorisant de se dire qu'on va aller jouer dans un champ ou dans un lieu très adapté à la scène qu'on a créée, ou alors avec un partenariat d'un lieu culturel. Ça pourrait être le WIP, ça pourrait être les âmes, ça pourrait être n'importe quel le château. Ça. Et en général, on y va un peu à la pirate, c'est-à-dire que on ne demande pas l'autorisation, on estime que l'expression artistique, elle a le droit d'exister aussi sans être forcément contrôlée tout le temps. Donc cette poésie-là, on essaye de la mener parfois dans la rue, et je pense que c'est assez chouette à vivre aussi.
Oui, c'est trop cool.
Bah super, bah merci beaucoup en tout cas Valérie et Alixia, et on se occupera de partager justement toutes les dates sur nos réseaux à nous. Et je crois que tu as une dernière petite chose à nous partager.
Oui. Avant de nous quitter, je vous donne un conseil à écouter.
Vous êtes sur France Inter. Ah non, vous n'êtes pas du tout sur France Inter. Vous êtes sur Bonjour Turbine dans le Media Lab.
Et non, vous n'avez pas rêvé, c'est bien Augustin Trapenard que vous voulez entendre.
Augustin Trapenard.
Ouais, merci à lui pour ce clin d'œil complice enregistré lors de sa venue au WIP pour Bibliothèque sans frontières. Alors n'oubliez pas.
Augustin Trapenard, est-ce que vous saviez que Boomerang et Bonjour Turbine, ce sont presque des anagrammes, ce qui n'est pas du tout étonnant. Pourquoi ? Parce que ce sont deux très bonnes émissions.
Et alors voilà, rendez-vous en septembre. Bye.
Merci beaucoup Alain, en tout cas c'était un réel plaisir de bosser avec toute cette équipe et de produire des émissions tous les mois, et oui, car c'est important de documenter, de parler, de mettre en lumière, d'apporter une réflexion, il y a encore tant de sujets à traiter. Je remercie donc toute l'équipe de Bonjour Turbine qui participe tous les mois, parfois moins, parfois plus, avec Alain, Pierre, David, Thomas of course, Lafken et les autres personnes environnantes telles que Alixia qui est là aujourd'hui pour la dernière, et voilà, je vous souhaite un bon été à tous, on vous fait des très gros bisous, à fun, les pieds dans l'eau, bisous,
bravo.